Et vous savez que c'est parce que Dieu est tellement saint qu'on ne peut pas le voir. Hein? Mais on désire le voir au fond de son cœur, et c'est les cœurs qui s'ouvrent pour qu'on puisse voir vraiment la sainteté de Dieu. Mais il est tellement saint que si on le voit, on peut pas continuer à vivre. Voilà, bonjour à chacune et à chacun. Alors, vous savez que moi, je fonctionne, j'ai un texte et puis des dessins. Les dessins, ce ne sont pas des dessins d'art, hein, rassurez-vous. Ce sont des dessins qui m'inspirent au fur et à mesure que je construis mon texte. Donc, ne vous étonnez pas, il y a des dessins un petit peu particuliers, mais ils expriment quelque chose que l'esprit a mis dans mon cœur, quoi. Voilà, nous avons donc l'habitude chaque dimanche de nous retrouver dans cette salle, donc pour passer un moment relationnel commun, pour glorifier ce grand Dieu qui est le nôtre et que nous aimons sans jamais l'avoir vu. Ah, il y a peut-être des gens ici qui ont vu Dieu. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai entendu. Voilà. Alors peut-être ce matin, vous posez-vous des questions sur votre relation avec Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel attend vraiment de moi ? En réalité, nous avons au fond de nous, chacune, chacun, une partie de la réponse. Nous savons que Dieu nous veut entièrement, totalement à lui. Ça, on le sait. En lisant lors de mon culte personnel le chapitre 17 du livre de Jérémie, eh bien, j'ai été profondément interpellé par les versets 5 à 8, qui ont déjà été entamés par la sœur Christelle, et que j'aimerais partager avec vous ce matin. Voilà. Donc, Jérémie 17, à partir du verset 5. « Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel en faisant cela. Il est comme un buisson dans le désert, et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Au contraire, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. » Alors vous voyez, ce passage de Jérémie 17 ressemble à s'y méprendre au psaume 1, hein, que vous avez certainement lu dans la Bible. C'est un révélateur de ce que Dieu attend de nous, à savoir que nous lui fassions entièrement, totalement confiance. Et il le dit clairement dans le verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en lui. » Béni, ça commence par béni. C'est autour de cet axe de confiance en Dieu que nous allons ce matin réfléchir et méditer, si vous le voulez bien. Alors, il ne vous a sans doute pas échappé qu'ici-bas sur cette terre, nous sommes régulièrement confrontés à des choix. Croire ou ne pas croire, obéir ou désobéir, faire ou ne pas faire confiance à quelqu'un ou à Dieu en particulier. Dans Jérémie 21, verset 8, dans la Bible, il est écrit « Voilà ce que déclare l'Éternel. Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. » Voilà, on a le choix entre deux chemins. Celui qui conduit à la vie, celui qui conduit à la mort. Alors il s'agit bien sûr ici de deux chemins spirituels, dont l'un conduit à Dieu, voilà, c'est la vie, et l'autre mène à une vie sans Dieu, et bien c'est la mort éternelle, qui adviendra après le jugement final. Bien sûr, nous sommes libres, responsables de nos choix, et ça s'appelle le libre arbitre. Voilà, on est libre de choisir ce qu'on veut. En quelque sorte, frères et sœurs, nous déterminons par les choix que nous faisons notre vie près de Dieu, avec Dieu, ou dans l'éloignement de Dieu. C'est un choix. Ce sont des choix qui déterminent la qualité ou la pauvreté de nos vies spirituelles est-ce que nous en sommes conscients? Ce sont ces choix qui déterminent notre vie spirituelle. Pour Dieu, vous l'avez compris, la confiance est essentielle. C'est le lien qui devrait, en toute occasion, relier le chrétien à son Créateur, à son Sauveur, à son Bienfaiteur. Dans le Proverbe 22, verset 19, il est écrit « Que ta confiance repose sur l'Éternel, pas sur quelqu'un d'autre. » Ce lien puissant, c'est celui, par exemple, qui a uni Abraham à Dieu. Dans Genèse 15, verset 6, dans la Bible, il est écrit « Abraham eut confiance en l'Éternel en prenant ses paroles au sérieux. C'est pourquoi il fut en règle avec Dieu. Son acte de confiance lui valut d'être considéré comme juste. » Alors on peut se poser la question, c'est quoi la confiance? Eh bien, Christelle, elle en a parlé, c'est étonnamment, c'est un acte de foi. Et moi, je vais vous montrer qu'on a cet acte de foi dans notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne. Trois exemples. Quand nous confions notre argent à la banque, est-ce que nous allons vérifier tous les 30 secondes pour savoir si notre argent est toujours sur le compte? Non, on fait confiance, on dit, bon, il y est, et puis parce que c'est une banque. À la piscine, quand vous plongez dans le grand bain qui est marqué 3 mètres, est-ce que vous allez avec un mètre ruban pour vérifier s'il y a bien 3 mètres? Il pourrait y avoir 30 cm, et si vous plongez, vous allez vous tuer. Non, on ne va pas vérifier. Quand vous confiez votre enfant au maître ou à la maîtresse à sa rentrée scolaire, vous ne restez pas 15 jours dans la classe avec lui pour savoir si la maîtresse elle est valable ou pas. Ce sont des actes de confiance qu'on fait tous les jours. Eh bien, se confier en Dieu, c'est d'abord croire en Dieu, c'est aussi lui dire « Seigneur, tu es digne de la confiance que je place en toi. » Voilà. C'est ça ma relation avec Dieu, je lui dis, je crois que tu es digne de la confiance que je place en toi. Alors frères et sœurs, qui d'autre plus que Dieu est digne de recevoir notre confiance? En réalité, cette confiance est fondée sur deux socles solides. La première, c'est la connaissance que nous avons de Dieu par la relation que nous avons créée avec lui depuis notre conversion. Dans le psaume 147, verset 5, dans la Bible, il est marqué « Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, sa science est infinie. » Alors, est-ce ainsi que nous voyons Dieu? C'est ainsi que nous connaissons Dieu? Quelqu'un de extrêmement puissant et que... Oui, voilà, dans notre connaissance avec lui. Mais aussi par la connaissance biblique de Dieu. Il y a la relation, mais il y a aussi la Bible. Dans Apocalypse 4, 11, il y avait là, autour du trône, c'est ce que voyait Jean, les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui est sur le trône en disant « Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé l'univers et c'est par ta volonté que toute chose existe. » C'est en Dieu, en ce Dieu grand, puissant et parfait, que nous sommes appelés à nous confier, parce qu'il en est digne. Dieu est digne. Est-ce que vous considérez que Dieu est digne de votre confiance? Voilà, c'est la question qu'on peut déjà se poser. Dans le texte que nous avons lu, Jérémie le dit très clairement. Nous avons forcément besoin de nous confier en quelqu'un. On ne peut pas vivre replié sur soi-même. Si ce n'est pas en Dieu, en qui plaçons-nous notre confiance? Bien, le plus souvent, ce sont dans les pensées humaines, puisqu'on est humain, les conseils humains, l'argent, et surtout en nous-mêmes. Voilà, ça c'est notre habitude, parce qu'on a été formaté comme ça. Le texte dit pourtant, « Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force. » Un exemple, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, lorsqu'il était attaqué, au lieu de compter sur l'Éternel, de se remettre entre ses bonnes mains, qu'est-ce qu'il faisait? Il se remettait à l'Égypte, avec qui il faisait alliance. Il priait les faux dieux des pays environnants, il s'en remettait aux augures, il s'en remettait aux devins, déclenchant ainsi la jalousie et la colère de Dieu. Alors nous, comment nous comportons-nous dans les épreuves de notre vie? Est-ce que nous comptons en premier sur Dieu ou est-ce que nous cherchons des solutions humaines? Deuxième question qu'on peut se poser ce matin. Cette confiance mal placée, dit Jérémie, nous conduit à une vie spirituelle pauvre, rabougrie, nous prive du bonheur infini de la présence de Dieu, nous fait traverser de longs déserts spirituels et nous plonge dans une forme de solitude dépressive. Hein, il l'exprime dans le verset 6 et 5, il est comme un buisson dans le désert, il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Il détourne ainsi son cœur de l'Éternel. Vivez-vous cet éloignement d'avec Dieu? Voilà. Troisième question. Alors, en plus d'un acte de foi, la confiance, c'est aussi un acte d'amour. Nous faisons confiance à Dieu parce que nous l'aimons. Mais aussi parce qu'il nous a aimés le premier en sacrifiant pour nous, par amour, son propre Fils, son unique, afin que par sa mort, nous vivions. Amen. Amen. Dans Jean 3,16, il le dit clairement, « Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. » Le fait de recevoir Jésus, ça nous ouvre les portes de la vie éternelle. Voilà. On n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, il suffit de croire. Avons-nous placé notre confiance en celui qui nous a aimés à la folie pour donner son Fils? Vous vous rendez compte? Pourquoi Dieu désire-t-il tant qu'on lui fasse confiance? Alors vous savez, il y a quelques années, une grande marque d'électroménager avait créé le contrat de confiance. Achetez chez nous et nous vous garantissons la qualité de l'après-vente. Eh bien, l'homme pêcheur, malgré toutes ses qualités, n'est hélas qu'un homme pêcheur imparfait, peu fiable. Au contraire, Dieu lui présente une absolue garantie de sûreté. Et celui qui a écrit les Proverbes, Salomon, l'exprime bien en disant dans le Proverbe 18:10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit toujours méditer, parce que c'est vrai qu'en se réfugiant en l'Éternel, en se confiant en lui, eh bien, on trouve vraiment la sûreté. Alors, il y a quelques années, enfin, il y a quelques années, il y a 30 ans quand même, mais ça fait quand même quelques années, j'ai passé 3 jours dans la forêt vierge équatorienne. Hein, vous savez, c'est la forêt vierge où il y a les Indiens Givarons, les réducteurs de tête. Alors, rassurez-vous, ils vont pas, je ne sais même pas s'ils existent encore. Mais on ne rentre pas dans la forêt vierge comme on rentre à la pépinière. Vous savez, il faut prendre des précautions. Donc, on est un petit groupe, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on est allé chercher un guide, et le guide, qui était un Indien, nous a dirigés dans la forêt vierge. Et c'était extraordinaire, parce que sans lui, moi je pense qu'on aurait fait plein de bêtises. Hein. Il nous a dit, là, ça vous touchez pas les fruits là, vous n'allez pas par là, on va pas voir cette tribu parce que ils sont dangereux, mais il nous emmenait dans des... en pirogue, et puis on est allé dans les endroits où il fallait, et vraiment, on a pu ressortir au bout de 3 jours bien content. Voilà. Alors pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte pas ma vie pour le plaisir de raconter ma vie. Hein. Mais dans la jungle de nos vies, Dieu a pour nous un plan de vie. Pour chacun de nous, il a un plan de vie. Et il nous invite à entrer dans ce plan de vie pour en être le guide. Ce plan de vie nous conduit à la vie éternelle. Et en faisant confiance à Dieu, nous entrons dans ce plan de vie. C'est Dieu seul, comme le guide, qui connaît ce plan. Et il sait où nous emmener et ne pas nous emmener. Et nous, des fois, on n'a pas envie de lui faire confiance. Et il y a beaucoup de gens qui n'entrent pas dans ce plan de vie, et puis qui, un jour, vont passer devant Dieu, puis vont dire, « Ah ben, il y avait un plan de vie, je ne savais pas. » Donc là, vous pourrez plus dire ce matin, « Ben, je ne savais pas, parce que je vous l'ai dit. » On a chacun un plan de vie, et on doit entrer dans ce plan de vie, et c'est Dieu qui en est le guide. Le lien de confiance qu'on décide d'établir avec quelqu'un est un travail d'équipe. Il faut travailler en équipe avec Dieu. Que serait d'ailleurs Tintin sans Milou, Astérix sans Obélix et Milan sans Raymond? Avec Dieu, dans le duo créé avec Dieu, dit David dans le psaume 60, verset 14, nous ferons des exploits avec Dieu. Le duo de confiance que nous formons avec Dieu est un duo forcément gagnant. Nous nous plaçons notre confiance en Dieu, et puis c'est lui qui agit. C'est extraordinaire, ça. Nous, on n'a qu'à placer notre confiance, on n'a rien à faire, et c'est lui qui agit. Ça, c'est vrai, parce qu'il sait ce qu'il faut faire. Dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est marqué dans la Bible. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Et en plus, il dit, garde le silence devant l'Éternel et simplement espère en lui. Moi, ce n'est pas toujours ce que je fais. Moi, des fois, je râle, je rouspète, je dis, ben oui, Seigneur, ça ne va pas assez vite, etc. Non, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui, c'est lui qui fera. Est-ce que vous pratiquez déjà ce lien de confiance avec Dieu? Sinon, voulez-vous le pratiquer? Vous savez, en général, quand je prépare une prédication, bien souvent, Dieu me fait passer de la théorie à la pratique par une épreuve que je traverse. À chaque fois. Hein. Mais à chaque fois, je ne m'y attends pas. Alors, je préparais cette prédication, et puis, je le dis franchement, je ne parvenais même pas à la commencer. J'étais sec. J'arrivais pas à faire un dessin, j'arrivais pas à faire à écrire un mot, rien du tout. Je voyais le temps passer, mon emploi du temps s'alourdir, et je commençais à penser, j'y arriverai jamais. Je commençais à angoisser, et je pestais contre le manque de temps, quand ma fille aînée, Alicia, me dit, « Papa, il faudrait qu'on trouve encore des dates en juin pour la fête des pères et la fête des mères. » Je dis, c'est pas possible. En plus, elle nous rajoute des choses. Et là, j'ai dit, ça, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Tout s'écroulait sur moi. Alors, je me suis dit, la prédication, ça, c'est râpé. Mais Alicia et Wardia, elles ont fait preuve d'intelligence, de sagesse. Elles sont venues vers moi, ils ont dit, pas de problème, papa, on prie pour toi. C'était sage. Hein. Alors, on s'est mis tous les trois, on a confié mon angoisse et puis mon incapacité à Dieu, et au miracle, les choses se sont inversées, mais complètement. C'est-à-dire que Dieu, il a pris ça en charge, et puis, après, j'avais plus qu'à écrire, à dessiner, et c'est venu tout seul. Mais Dieu m'a expliqué comment vraiment il fallait... Parce que moi, la théorie, c'est facile, mais la pratique, c'est beaucoup plus dur. Et mettre sa confiance en Dieu devrait être un réflexe pour chaque chrétienne, chaque chrétien, afin de se mettre sous l'autorité de Dieu pour qu'il puisse agir au mieux dans nos vies. Mais même si nous plaçons notre confiance en l'Éternel, cette confiance va se heurter à notre logique. Et ça, la logique, c'est quelque chose de difficile à passer au-dessus. Nos habitudes, nos pensées humaines. Et cette histoire que j'ai déjà racontée ici, mais que j'aime bien raconter, l'explique à merveille. Daniel, c'est pas forcément moi, hein, mais bon, ne le voyez pas, mais si, ça peut être moi quand même. Daniel se promène un soir sur le haut de la falaise afin d'observer la beauté du coucher de soleil et des beautés que Dieu a créées. Soudain, alors qu'il approche du vide, son pied heurte une pierre et Daniel chute lourdement dans le vide. Il dégringole le long de la falaise, tentant de s'accrocher aux plantes, mais la chute est vertigineuse. Par miracle, il réussit à saisir une grosse souche et à se stabiliser, les deux pieds en suspension dans le vide et dans le noir. Choqué, semi-inconscient, Daniel décide de se tourner résolument vers son Dieu et de l'appeler au secours. Daniel se trouve à présent dans une situation très inconfortable. Il se confie en Dieu en l'appelant au secours. « Seigneur, viens à mon secours, sauve-moi s'il te plaît !» Une voix se fait alors entendre, Daniel, lâche la branche. Tout le monde aurait lâché la branche, hein. Bien sûr. Toute la nuit durant, le Seigneur dit à Daniel, Daniel, lâche la branche. Daniel, lâche la branche. Mais Daniel répète toute la nuit, « Seigneur, si je lâche la branche, je me tue, je vais mourir. » La solution proposée par Dieu de lâcher la branche n'est pas la solution attendue par Daniel. Il la trouve même folle et dangereuse. « Comment Dieu peut-il me demander une telle chose? Veux-tu que je meure ?» Le Seigneur dit à nouveau, « Daniel, lâche la branche. » Franchement, frères et sœurs, combien parmi nous ce matin, à la place de Daniel, aurait lâché la branche? À part notre frère Claude. Oui, ben voilà, toi tu l'aurais lâché, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient lâché la branche? Au petit matin, épuisé et transi de froid, alors que le jour se lève, Daniel s'aperçoit qu'il n'était qu'à 30 cm du sol. En écoutant Dieu, en lui faisant confiance, il aurait pu s'éviter bien du tourment. Pourquoi n'as-tu pas lâché la branche? Ben parce que je suis humain, parce que mes raisonnements me font dire que si je lâche la branche, je me tue, alors que la confiance de Dieu me dit, ben, lâche et puis tu seras bien. Vous voyez, cette petite histoire est là pour nous rappeler qu'il n'est pas facile de vraiment se confier en Dieu. On peut croire en lui, le reconnaître comme notre sauveur, prendre des chants, dire dans la prière, « Oui Seigneur, je te confie tout ». Mais lui faire entièrement, totalement confiance, lui remettre entre ses mains nos vies, nos décisions, notre avenir, ben c'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? C'est plus dur. Cela nécessite donc une prise de conscience particulière de qui est vraiment Dieu dans une relation intime, profonde et personnelle avec lui et engager un travail de confiance. Ça, je pense que c'est nécessaire d'engager un travail de confiance avec Dieu. Alors, frères et sœurs, le Dieu dans lequel je me confie et avec lequel j'ai une relation d'intimité est tout d'abord saint et parfait. C'est ce qu'on a chanté. Mais pas que. Il est aussi omnipotent. C'est-à-dire qu'il est tout puissant, il peut tout. Moi, je peux rien, lui, il arrive à pouvoir tout. Omniprésent. Il est partout en même temps. Moi, je suis partout au même endroit. Omniscient, il connaît tout, il sait tout. Moi, je ne connais rien, je ne sais rien. Voilà, par rapport à lui. Dans ces conditions, comment ne pas désirer lui faire confiance? Vous voyez? Personnellement, moi, je vois trois étapes pour engager une relation de confiance avec Dieu. C'est la première, c'est recevoir la confiance, la recevoir. Vous savez, la confiance placée en Dieu ne se fait pas d'une manière naturelle. On ne se lève pas un matin en disant... Tiens, aujourd'hui, je vais placer ma confiance en Dieu. Enfin, si vous pouvez le faire, mais c'est rare quand même. La confiance se crée, s'installe en lisant, en écoutant les témoignages puissants des merveilles que Dieu réalise dans la vie de celles et ceux qui se confient en lui. Quand je lis par exemple comment Abraham s'est confié en l'Éternel dans la Bible, et comment Dieu est intervenu en sa faveur, et comment il l'a béni, ben, cela me donne envie de l'imiter. Moi, j'ai envie de faire comme Abraham. Et puis, quand je lis dans 1 Samuel 17, comment David, jeune enfant, a pu terrasser un géant philistin, a guéri un soldat, Goliath, en s'appuyant sur Dieu, verset 45, il s'est confié en Dieu, il lui a dit, « Toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, c'est-à-dire en me confiant en l'Éternel, le Seigneur des armées célestes que tu as insulté. » Et quand je vois comment ça s'est terminé, hein, le géant à terre et Samuel triomphant, eh bien je reçois en moi un puissant capital confiance en Dieu. Moi j'ai envie d'imiter aussi Samuel. David, merci. Quand je lis dans 2 Rois 20 que le roi Ézéchias, à la veille de sa mort, prie Dieu avec un cœur sincère et sans partage, Dieu en qui il s'est confié toute sa vie, lui envoie Ésaïe pour lui dire « Tu sais, Ézéchias, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir et je prolongerai ta vie de 15 années. » Comment, frères et sœurs, ne pas placer sa confiance en ce Dieu qui seul peut tout? Alors, on pourrait multiplier les exemples bibliques, les prédications et les témoignages de vie qui installent en nous une véritable envie, un pressant besoin de nous confier en Dieu. Vous savez, la Bible, c'est important. Hein, Ésaïe 55, verset 11, « La parole prononcée par ma bouche, dit Dieu, ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que j'ai décidé et sans exécuter jusqu'au bout la mission que je lui ai confiée. » C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous donne cette confiance quand on lit la Bible. Il nous apporte cette confiance. En lisant la Bible, la parole de Dieu, eh bien nous sommes exhortés, encouragés à lui faire confiance. Est-ce que vous avez pris l'habitude de lire la Bible tous les jours pour avoir ce capital confiance? Et puis la seconde étape, eh bien, c'est ensuite, une fois qu'on a la confiance reçue, eh bien, c'est la confiance proclamée. On proclame sa confiance. Lorsque notre potentielle confiance est suffisamment affermie, eh bien, nous pouvons, comme le roi David, proclamer notre entière confiance en Dieu. Et le meilleur exemple, c'est le psaume 23. David proclame que la confiance qu'il a placée en l'Éternel fait de Dieu son guide, son berger, qui va pourvoir à tous ses besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle proclamation ! Voilà, je place ma confiance en l'Éternel, c'est mon berger, je ne manquerai de rien. David proclame la paix que le Seigneur lui accorde par la confiance qu'il place en lui. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Là, c'est quand on traverse des moments de grande effervescence, eh bien, c'est vrai que Dieu nous amène vers les eaux calmes quand on se confie en lui. David est fortifié, guidé, dirigé par sa proximité avec Dieu. Il me rend des forces neuves. Et par l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le chemin droit. C'est lui qui fait tout ça. David, plein de la confiance placée en Dieu, s'approprie la victoire sur l'épreuve. On passe tous par des épreuves. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. C'est quelque chose d'extraordinaire. On proclame la confiance que Dieu nous donne. Moi, avant ma rencontre avec Dieu, j'avais connu d'angoissants épisodes de solitude. J'étais seul, quoi. Je me sentais vraiment seul. Lorsque j'ai lu la Bible, j'ai été interpellé par cette phrase biblique prononcée par Jésus sur la colline de Galilée après sa résurrection. « Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Et ça, cette confiance que j'ai placée dans Jésus, qui est présent tous les jours autour de moi, en moi et dans ma vie, ben ça m'a fortifié. Je me souviens m'être approprié cette promesse de Jésus pour demander au Seigneur, « Seigneur, que je ne sois plus jamais seul, je te confie ma solitude. » De même, après ma conversion, tout de suite après, moi j'ai demandé à Dieu, me confie en lui, « Seigneur, je me confie en toi. Je te donne ma vie, mais que ma famille et moi-même, nous ne manquions jamais de rien. » Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette demande à Dieu. Et je me suis appuyé sur deux versets bibliques, Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et puis sur Matthieu 6, 32, « Votre Père qui est aux cieux connaît vos besoins, faites du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de l'Éternel mon berger, j'ai fait du royaume de Dieu ma préoccupation première, et le Seigneur m'a répondu. Et puis la troisième, une fois qu'on a cette confiance reçue, cette confiance proclamée, eh bien, il y a la confiance témoignée. Et ça, c'est important. Après avoir reçu la confiance, après avoir l'avoir proclamée, eh bien, il est à présent temps de témoigner des belles choses que Dieu a faites dans nos vies. Et c'est ce qu'on fait chaque mois à l'Église. Hein, il y a des cultes témoignages où chacun peut venir exprimer vraiment les réalisations de Dieu. Psaume 9, verset 2, « Je veux te glorifier, ô Éternel, dit David, de tout mon cœur, je veux raconter tes merveilles. » Voilà, je raconte les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Témoigner est une façon de rendre hommage à Dieu, en qui nous avons placé notre confiance. C'est aussi encourager les frères et sœurs à se confier en Dieu. Voilà. Quand je témoigne, eh ben, je reçois aussi, les frères et sœurs reçoivent aussi de l'encouragement. Alors, vous savez, j'avais confié à Dieu ma solitude. Eh bien, frères et sœurs, depuis 33 ans, je n'ai plus jamais vécu ni ressenti la solitude. Jamais. Une fois même, j'ai été obligé de prier Dieu pour qu'il m'envoie moins de monde. C'était dingue. Parce qu'il y avait un moment où, avant j'étais seul, je ne voyais personne, il n'y avait personne qui venait me voir. Et après, il y a eu tellement de monde que Dieu m'a envoyé, que j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué, je ne peux plus. Et envoie-moi moins de monde, s'il te plaît. J'avais demandé à Dieu qu'il ne manque jamais de rien, pour ma famille et moi-même. Honnêtement, j'ai été comblé au-delà de mes attentes. Franchement, on n'a jamais manqué de rien. Personnellement, je remets le plus de choses possible entre les mains de l'Éternel. Je lui confie ma journée. Les cultes que je prépare, ma famille, nos projets, nos fardeaux, nos préoccupations et nos soucis. Ma fille, par exemple, qui prend la route, ben, je ne vais pas la suivre en voiture pour voir si... je la confie à Dieu. Je lui confie notre Église. Je lui confie tout à Dieu. Le fait de tout remettre entre les bonnes mains de Dieu, eh bien, me rassure, me libère, me donne la paix, car je sais que le Seigneur prend grand soin de ce que je lui confie. Dans le psaume 3, verset 6, il est marqué « Je me couche et m'endors l'esprit serein, je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. » C'est vrai que j'ai pas de si je me réveille, c'est pas par des préoccupations. Des fois, c'est par la santé. Se confier en l'Éternel, c'est ressembler à un arbre et non à un buisson tout rabougri du désert. L'arbre symbolise la force de la nature, dont la croissance est liée à sa situation. Il a besoin d'eau, l'arbre. D'ailleurs, ceux qui ont des jardins savent que quand on ne peut pas arroser, ben, les fleurs ou les arbres disparaissent. Ses racines vont chercher la nourriture dans les lieux humides profonds. Être en bord de rivière l'aide à grandir, porter des fruits et prendre de l'envergure. L'être humain qui se confie en l'Éternel symbolise cet arbre. Il s'enracine dans la parole de Dieu qui est pour lui une parfaite nourriture spirituelle. Il y puise la volonté de Dieu, avec ses racines. Il va chercher la volonté de Dieu. Il va chercher ses promesses sur lesquelles il peut s'appuyer. Et l'Esprit Saint qui est en lui, lors de la conversion, eh bien, peut produire de nombreux fruits, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Cet être humain est béni par la confiance qu'il a placée en Dieu. Alors bien sûr, comme tout être humain, l'homme qui se confie en l'Éternel va traverser des épreuves. Il va souffrir. C'est le lot de chacun. Enfin, à moins que dans l'Église, il n'y ait personne qui soit passé par un moment d'épreuve, mais je vous rassure, vous en aurez. 1 Pierre 4,12, vous avez été plongé dans une fournaise qui éprouve votre foi. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Ces moments de chaleur, cette année de sécheresse, les épreuves de la vie se heurtent à la confiance placée en l'Éternel. Mais cette confiance le rend serein, sans inquiétude, car il est sûr de la fidélité de son Dieu. Moi, je sais qu'en fin d'année 2022, on m'a diagnostiqué, après biopsie, un cancer de la prostate. Alors, cette nouvelle a été un gros coup de chaleur pour moi. Parce que, franchement, je ne m'y attendais pas. Et ça a été quelque chose de... Alors, il y avait deux solutions. Soit je m'effondre, je dis « Oh là là, je vais mourir, c'est terrible, c'est affreux. » Ou alors, ben j'espère en Dieu, parce que je place ma confiance en lui. Eh bien, j'ai pris la décision de confier cette situation à Dieu. Et franchement, frères et sœurs, je me suis senti porté dans l'épreuve et protégé par Dieu. J'ai même pu témoigner l'amour du Seigneur autour de moi. Vous voyez, j'ai pas dit que je vais pas voir les médecins parce que je me confie en Dieu. Moi, j'ai dit, je me confie en Dieu, Seigneur, et trouve-moi les médecins et les traitements qu'ils font. Et le Seigneur m'a bien dirigé, franchement. Ça s'est fait même plus vite que je pensais. Et c'est vrai, cette épreuve a été pour moi un vrai temps de grâce. Et je peux dire merci Seigneur, et je le remercie chaque jour pour ce qu'il a fait pour moi. Frères et sœurs, ce matin, à travers cette prédication, Dieu vous a appelé à placer en lui seul, toute votre confiance. Voulez-vous installer cette relation avec lui? C'est important. Et je terminerai par ces belles paroles de David dans le psaume 40, versets 5 et 6. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux, perdus dans le mensonge. Ô Éternel mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets! Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre en est beaucoup trop grand. Voilà, je vous remercie pour votre écoute attentive et je vous propose que nous puissions prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous appelles à placer notre confiance en toi. C'est vrai, Seigneur, on a la possibilité de le placer dans d'autres personnes, ailleurs. Mais tu nous appelles, tu nous invites, et tu nous l'as dit encore ce matin, c'est en toi que se trouve la confiance. Aide-nous à placer notre confiance en toi, à être comme ce Daniel, Seigneur, mais qui lâche la branche, et qui dit « Oui, Seigneur, je te fais confiance et je lâche. » Merci, Seigneur, de nous encourager, de nous soutenir, de nous bénir. Merci, Seigneur, de nous faire du bien chaque jour, et que vraiment on puisse vivre avec toi, jusqu'à la fin de nos jours. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Amen.